Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui, c'est le jour de l'émission de Jean Darrow. Les livres ont la parole, c'est tout de suite sur Fréquence Mistral.
Oui, merci Odile, bonjour. Donc, on est bien dans cette émission Les livres ont la parole et on reçoit un auteur qui amène un livre, mais non seulement il amène un livre, il amène aussi une commune, puisque le nom de la commune porte le nom du livre, c'est le livre sur une commune. Et donc on reçoit Carole Sénèze-Cosané qui vient nous présenter son livre qui s'appelle tout simplement Moustier-Sainte-Marie. Bonjour Carole.
Bonjour Jean.
Voilà. Alors, donc on va entrer tout de suite dans le gras pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vous a pris de faire un livre sur un village comme ça. C'est un village que vous aimez, que vous avez découvert récemment, que vous avez toujours connu.
Alors, c'est un village que j'ai toujours connu puisque mes parents et mes grands-parents sont de là-bas, enfin surtout ma famille, grands-parents maternelle et grand-père et grand-mère.
Alors, faut dire des noms, là.
Ils ah oui, alors...
Pour les moussiérins, comment ils s'appelaient?
Alors, ils s'appelaient Ferdinand Abbesse.
D'accord.
Et ma grand-mère s'appelait Thérèse Felin.
D'accord.
Et donc, ce qui fait que je passais toutes mes vacances dans le village, mais autour du village aussi, puisque les frères de ma grand-mère avaient des fermes. Et donc, je passais aussi autant de temps dans le village que dans les champs, avec les moutons... avec les petits poulets. Voilà, j'avais j'ai eu une enfance au niveau des vacances fantastique parce que, d'une part, les enfants, on était quand même lâchés à nous-mêmes. Donc, on avait quand même le bon sens. Du coup, les parents nous faisaient confiance. Et les heures où il fallait rentrer à la maison, c'était la cloche qu'ils donnaient. Donc, on rentrait quand on entendait le premier coup de cloche parce qu'il fallait être au deuxième coup de cloche à la maison. Et donc, j'ai grandi avec ces jeux dans les rues de Moustier, que ce soit les patins à roulettes, les marelles, les ballons. Et puis surtout aussi, on s'amusait avec tout ce qui était dans la nature. On avait deux grands sols à l'époque à Moustier, qui ne sont plus malheureusement dans le village aujourd'hui, mais avec lesquels on jouait à se déguiser. Ou alors, vous avez connu ça, je suppose, on prenait les écorces de platane, on mettait une feuille de platane et on soufflait dedans. Oui. Rien ne nous amusait. Donc j'ai grandi pendant mes vacances dans ce village et j'ai tout autant été émerveillée toute petite par l'étoile. Parce que cette légende, le duc de Blacas, mais j'y croyais ferme. Donc mes parents me disaient, oui, le duc de Blacas, il avait fait une promesse, il revenait. Et j'ai grandi avec cette promesse-là au fond de moi. Ce qui m'a donné toujours un petit peu, je dois l'avouer, cette force de me dire, mon père me disait, tu vois, si tu veux, tu peux. Tu fais comme le duc de Blacas.
D'accord.
Si tu arrives à faire ça, si tu le veux vraiment, tu arriveras. C'est comme ça que j'ai vaincu ma peur de l'eau, ma peur du cheval, voilà. Donc j'ai été quand même marquée très longtemps par cette légende. Et quand on vieillit, on apprend bien sûr qu'on ne connaît pas vraiment l'origine de l'étoile, mais il y a quand même un côté merveilleux qui reste, puisque pourquoi on est allé mettre cette étoile entre ces deux rochers? Quelle raison à... Alors, je laisse les spécialistes discuter de ça, puisque moi, je n'ai pas la réponse. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, comme les Amis du musée avec le livre Le Temps retrouvé, qui est très bien fait. Et de ce fait, moi, je n'ai pas la réponse, mais ça m'émerveille toujours autant. Alors, en dehors, bien sûr, de l'aspect étoile et des ruelles de Moustier, il y a tout l'environnement moussiérain qui est magnifique, avec les chapelles, la chapelle de Notre-Dame de Beauvoir. Puis après, quand vous allez découvrir la chapelle Sainte-Anne, ou alors vous appelez en bas la chapelle Saint-Jean, qui est la plus vieille de Moustier, de mémoire. Et ensuite, donc, vous découvrez tout le décor minéral de Moustier, avec quelques magnifiques promenades autour des oliviers, la montée à la chaîne. Après, vous partez aussi vers le Rioux avec des belles cascades. Vous pouvez monter par des magnifiques chemins jusqu'en Ops, Venascle. Enfin, et tout ça, quand on est jeune, on le vit. On crapahute dans les rochers. On est en bas à ramasser des narcisses à Pâques. On n'a pas de contraintes.
Oui.
On est en liberté et en même temps, on est responsable. C'est un petit peu... Et ce qui m'a donné un peu cette intrépidité dans la vie, Moustier, je lui dois beaucoup parce que finalement... mes aïeuls m'ont permis de fouler le sol de Moustier, mais ça m'a donné aussi ce caractère d'amour du beau, parce que Moustier est quand même un très beau village. Ensuite, vous vous baladez dans les rues, vous avez des artistes et des artisans qui travaillent la terre. J'ai grandi aussi avec toute cette faïence autour de moi. Donc, ce qui fait que j'adore prendre un pinceau et peindre, mais je suis loin de l'art moustiérain. Mais ça m'a donné l'harmonie des couleurs. J'adore, je suis toujours en train d'acheter des assiettes, au grand malheur de mon mari, parce que j'empile les bols et les assiettes. Et voilà, donc il y a ce côté un peu magique hein, de la légende, un peu du contexte du paysage qui est très beau. Et donc j'ai grandi dans cette approche-là à tel point que j'en étais tellement convaincue que quand j'arrivais à Marseille, ma mère s'est souvent fait réprimander. Elle était appelée par l'institutrice en disant « Mais attendez, votre fille, qu'elle arrête de raconter des légendes et des étoiles et des miracles. » Parce que voilà, quoi, j'y croyais dur comme fer. Et voilà, et ça a été... Et après, ben, même en grandissant, j'ai toujours aimé ce village. J'y suis revenue tout le temps. Maintenant, je vis en Bretagne, mais je ne peux pas m'empêcher de revenir passer mes vacances chaque année. Et aujourd'hui... Si on me demande pourquoi tu as voulu faire un livre, vous alliez peut-être me le poser, c'est parce que beaucoup de gens ont des souvenirs fantastiques de vacances, mais ils n'en font pas un livre. Bon. Donc d'abord, j'ai grandi, j'ai toujours adoré les livres, j'allais toujours sous le lit, toujours dans mon cartable, j'allais toujours dès que je pouvais, même quand, dans le cadre de mon boulot, quand je prenais l'avion ou un train, j'avais toujours un bouquin. Donc le livre, ça me plaît beaucoup. Et puis le fait, je pense, que d'être loin de la Provence, j'ai passé 30 ans hors Provence aujourd'hui, ben, le temps passe et aujourd'hui, je suis en train de compter le temps que je ne passe pas en Provence. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de montrer et de me faire plaisir. Parce que faire des photos, être derrière un objectif, revivre toutes les traditions, parce que ça me manque. Même si la Bretagne est très belle, elle a quelque chose de mélancolique, que j'aime beaucoup aussi. Mais il me manque cette gaieté, cette chaleur, cet échange verbal, les galéjades. Bon, mais disons que j'adore la Bretagne, mais je pense que maintenant, mon côté provençal a besoin d'être encore un peu vécu, parce que ça fait 30 ans finalement que je l'ai quitté. Voilà.
Bon. Alors, et donc, vous avez eu envie alors, à la fois de vous faire plaisir, mais aussi de partager tout ce beau dont vous aviez, je dirais, des racines en vous. Et vous avez fait un livre. Alors, ce livre, il est beau et ben, il est essentiellement fait de photos.
Oui.
Hein. Alors, vous avez toujours aimé les livres, mais vous n'avez pas écrit sur Moustier. Vous avez plutôt essayé de faire partager votre... Vous avez parlé de ces petites rues, du minéral, de la végétation, tout ça, de la beauté des lieux. Vous avez essayé de le faire partager au travers de photos. Vous auriez pu aussi choisir d'écrire dessus.
Eh bien, je pense qu'il faut rester modeste. L'écriture, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas quand même du jour au lendemain.
Oui, mais la photo non plus, peut-être.
Ben, j'ai appris, ça a été peut-être plus facile pour moi d'apprendre. Ben, je crois que je ressentais de faire des photos face à ces paysages, plus que de le dire. Je crois que c'est tout simplement ça. La réalité, elle est là. C'est que j'avais, depuis toute mon enfance, j'ai toutes ces photos en moi, enfin, toutes ces passages de couleurs, d'odeurs, d'impressions, de sensations. Et je pense que je ne suis pas capable de pouvoir écrire. Par contre, de montrer ça en photo... alors j'ai été aidée quand même, on a fait quand même le livre à deux, il faut le dire.
Deux photographes.
Voilà, donc j'ai rencontré Alain Collignon, qui est un breton, et qui m'a appris à faire la mise en page, à travailler sur InDesign, sur Photoshop et Lightroom. Et en même temps, je lui ai fait découvrir Moustier, et il a aussi fait des reportages photos. Et comme je ne pouvais pas monter sur un paramoteur ou un parapente, c'est lui qui est allé là-haut, et bien sûr, il s'est éclaté.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de photos aériennes qui donnent des vues sur Moustier qui sont assez étonnantes.
Elles sont inédites toutes. Oui. Et en plus, on a été aidé par Karine Benoldi, donc de Rock'n'Roll, et puis par Alain Barter de Talar pour la Montgolfière, Karine Benoldi pour les photos de parapente. Et de ce fait, on a des magnifiques, en effet, vues aériennes inédites, où même des moussiérins se demandent d'où c'est pris. Donc voilà, et c'est ce qui fait le jeu aussi du livre, c'est que voilà, il y a des photos qui sont un petit peu, quand j'ai crapahuté tellement longtemps dans tous ces coins, que je savais où amener Alain pour dire voilà, il faut prendre telle photo. Voilà.
D'accord. On va peut-être écouter un petit morceau de musique. Et comme on parlait de Bretagne, on peut peut-être écouter une chanteuse, auteur, compositeur, interprète bretonne qui est Mandragore. Et ça s'appelle, si on a la bonne chanson,
Gabriel.
Gabriel. Et vous verrez que ce n'est pas forcément très éloigné d'une partie du nom de la ville dont on parle. Mistral pour l'émission Les livres ont la parole donc avec Carole Sénèze-Cosanet, qui a fait un très beau livre de photos sur Moustier-Sainte-Marie et qui vient nous en parler aujourd'hui. Alors, faire un livre, d'accord, vous avez choisi de ne pas passer à l'écrit mais de faire des photos parce que vous vous sentiez plus capable de ça. Mais un livre, y compris de photos, ça se construit, même si vous avez couru dans toutes les rues de votre enfance de Moustier. Et la construction d'un livre de photos, c'est comment ?
Ben, d'abord, j'ai fait beaucoup de librairies et pas mal de FNAC, où j'ai regardé un petit peu toutes les mises en page qui pouvaient m'intéresser. Et un jour, j'ai eu un coup de cœur pour un livre qui s'appelle « Perros vue du cœur ». Et donc, je me suis dit, c'est ce genre de livre-là que j'aimerais bien faire. Donc, j'ai contacté l'éditrice, qui donc habite en Bretagne. Et donc, elle m'a beaucoup conseillé. Alors, avec Véronique, plus Alan, ensuite, j'ai eu des amis qui m'ont aidé à relire les textes pour éviter les fautes d'orthographe, qu'on en fait toujours. Et puis, des amis qui m'ont aidé à traduire aussi en anglais, puisque là, il y a une version anglaise des textes. Et puis, il faut s'accrocher, il faut prendre sa règle pour faire les, à mi-minute près les mises en page.
Non, mais la construction, bien choisir quel thème vous alliez choisir.
Ah, bah, c'est venu presque.
Il y a des chapitres, on peut dire.
Alors, les chapitres, c'est le ressenti total. C'est-à-dire que je ne me suis pas trop posé longtemps la question des titres. D'accord. Je crois que je les avais déjà. Et c'est vraiment de manière humble que je le dis, parce que les fontaines, j'adore les fontaines dans tous les villages, hein, ce n'est pas que celle de Moustier. J'ai toujours entendu le bruit de l'eau, c'est quelque chose qui me parle. D'ailleurs, dans la présentation du chapitre des fontaines, je me suis vraiment éclatée à dire ce que je ressens de l'eau. Et puis, le côté, on va dire, spirituel de Moustier, qui vous ressource, qui vous aide à... Qui finalement peut se vivre ailleurs qu'à Moustier, puisque c'est le contact avec la nature. On se sent loin de la pression urbaine ou de la pression humaine, et on se retrouve seul dans cet environnement merveilleux.
Pas l'été.
Oui, peut-être pas l'été, mais il y a plein de chemins où on peut se retrouver.
Oui, bien sûr. Oui.
Là, les gens, c'est sûr, si on reste dans le village, il y a la foule. Mais si vous prenez tous les sentiers pour aller à la chaîne, pour aller au Riou, pour aller... ne cesse le long de la Maire, vous remontez vers Tréguier, vous verrez qu'il n'y a pas tant de foule que ça. Et il y a vraiment de très, très beaux coins. Et bon, en Alpes de Provence aussi, hein, puisque je connais bien la montagne de Lure, la vallée de Lubaye, j'adore Josier, enfin bon, Barcelonnette. Il y a plein de coins, je veux dire, par exemple Saint-Laurent, j'ai passé aussi des vacances à Saint-Laurent-du-Verdon, puisque mon oncle... Tonton Coco et Tati Jeannette avaient une maison là-bas, d'accord, qui était un peu rigolote, puisqu'il fallait passer par leur maison pour sonner les cloches de l'église à l'époque, puisque c'était à côté du presbytère. Donc, si vous voulez, cette nature, bon, c'est un hymne. Il y a un passage où c'est un hymne à la nature qui peut se faire dans tous les villages, mais là, c'est Moustier qui est montré parce que c'est vraiment magnifique. Ensuite, vous avez le passage sur l'eau qui a été une des raisons pour laquelle Moustier s'est construit. Et en même temps, les lavoirs et les fontaines, il y en a partout en Provence. Mais bon, c'est les fontaines de Moustier, donc j'étais sur place pour les prendre et c'est vraiment magnifique. La cité dynamique, je la vis comme ça, c'est-à-dire que des fois, vous levez à 6h du matin et puis ça vit, Moustier, parce que pendant la saison, il y a les gens qui préparent leur journée. Donc, et puis c'est gay, c'est le fait qu'il y ait du tourisme, le fait qu'il y ait de l'art, puisqu'il ne faut pas oublier les faïenciers, les artistes peintres, les façonneurs de verre. Il y a tout un ensemble, puis l'art culinaire aussi. On a quand même des bons, très bons restaurants, on a de très bonnes tables à Moustier. Donc je crois que cette gaieté-là, ça faisait partie d'un chapitre que je voulais faire aussi, pour montrer qu'il ne faut pas rester sur le côté monde de Moustier, trop de monde l'été, trop de boutiques, parce que c'est aussi ça qui rend le village gai et les gens gais. Ils ont déjà la chance de vivre dans un univers magnifique, avec une légende qui peut laisser pensif, mais quand même, elle est là, l'étoile, donc elle existe bien. Et en même temps, il y a tout ce côté artistique que vous pouvez visiter, donc vous ennuyez jamais à Moustier. Alors, c'est sûr, il y a du monde, mais pas que les... Enfin, je veux dire, c'est pas tant que ça, c'est juste la période estivale, 15 juillet, 15 août, mais malgré cela, on peut trouver le soir, y aller en fin de journée, trouver des petites terrasses de café où c'est très sympa, et même la journée aussi. C'est sympa aussi Moussier l'été, parce que c'est vivant, c'est gai, et l'hiver aussi.
Donc vous avez essayé de montrer différents.
Voilà, j'ai voulu montrer, où je m'éloigne un petit peu.
L'eau, le minéral, la nature, la vie, voilà. Le travail aussi.
Voilà.
Alors, vous parliez tout à l'heure d'un certain nombre de gens qui vous ont aidé pour faire ce livre, mais vous avez aussi essayé d'impliquer un peu les gens qui font Moussier, les habitants.
Voilà.
Vous parliez des faïenciers. Voilà, il y a un certain nombre de gens qui vivent et qui travaillent dans cette commune et qui font vivre cette ville.
Voilà. Enfin, ce village. Donc on a fait un petit peu un appel. L'office du tourisme a bien aidé pour que les gens se mobilisent pour éventuellement me donner des cartes postales ou des vieilles photos qu'ils aimeraient avoir qui soient présentes dans le livre. Et finalement, ça a donné la naissance au coin des Moussiérins.
D'accord.
Et donc là, il y a tout un passage et où on montre un peu les traditions provençales qui sont la pétanque, le jeu de quilles, les feux de la Saint-Jean. Voilà, et ça, ce sont des traditions et la fête du 8 septembre, bien sûr, et de la Diane qui sont très importantes pour Moussier. Il y a aussi un chapitre, parce que comme j'ai aussi gambardé dans les champs, comme je vous disais, j'avais quand même. Mes grands-parents avaient des frères et sœurs agriculteurs. Donc j'ai voulu montrer aussi les campagnes. Les campagnes avec les champs de lavande, l'odeur des lavandes, la manière dont on travaille aujourd'hui la lavande et avant, l'apiculture aussi.
Oui.
Et puis,
une pensée pour Marcel Sipion.
Voilà, il y a une petite pensée.
Il y a longtemps.
Et puis c'est son fils qui est en train, sur les photos, qui est en train de manipuler les ruches. Donc c'était un clin d'œil entre le père et le fils. Et sinon, il y avait toutes ces campagnes-là qui travaillent. Et il y a toujours le village, mais il y a aussi tous les alentours de Moussier qui sont magnifiques. Et puis l'entrée avec le pont Galeta, puis même la montée vers les gorges est très belle aussi. Donc ce sont les Alpes-Haute-Provence que j'aime beaucoup, que j'ai un peu crapahuté un peu de partout. Et je dois avouer que c'est un très, très beau département. Et j'y tiens très à cœur, et c'est pour ça que le livre fait partie peut-être des objectifs que je m'étais donné, mais il y a 5 ans, je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire un livre. Mais pour répondre à votre question, ça s'est venu naturellement.
Oui, oui. Et ça a pris combien de temps?
Deux ans et demi.
Parce que il faut les moments favorables pour un certain nombre de photos aussi, pour les éclairages, pour des conditions. Voilà. Donc pendant
j'ai été aidée aussi.
Voilà. Mais vous n'avez pas passé 2 ans et demi à Moussier pour faire des photos?
Non, j'ai fait des
photos. Comment ça s'est construit petit à petit, accumuler des photos, récupérer...
Alors, comme je voulais que ça soit des photos inédites, j'ai commencé par regarder tout ce qu'il y avait comme photos, cartes postales et photos sur Internet. Donc j'ai déjà fait un travail de fouille énorme pour pas que se refaire les clichés qui sont très beaux d'ailleurs. Faut pas non plus les... proposer autre chose
avec votre regard d'enfant aussi.
Voilà, d'enfant
de
et d'adulte.
De souvenirs que vous aviez. Éventuellement, vous aviez envie de retrouver peut-être un regard ou des vues qui éventuellement n'existent plus.
Voilà, tout à fait. Tout à fait.
Donc, vous avez regardé tout ce qui existait déjà.
Voilà, pour pas refaire la même chose. Et puis aussi voir ma vision à moi du village telle que je la ressentais. Et donc, ça a pris 2 ans et demi. Donc, j'ai fait des passages à Moustier où là, j'ai été par Mont, par Vaux. Et après, ça a pris beaucoup de temps aussi, presque 6 mois pour le réaliser. Parce que c'est pas parce qu'on a les photos que ça y est, c'est fait. Donc, chaque page a été travaillée au moins 2-3 fois. Toutes les photos, j'ai à peu près 12 000 photos, j'en ai gardé que 900.
D'accord.
Donc ça vous donne une idée du travail, mais aussi du plaisir que j'ai pris à faire tout ce travail. C'était un plaisir. Se remettre sur le PC, pour une fois, c'était un plaisir. C'était pas une contrainte.
Oui, alors vous disiez que vous n'étiez pas photographe au départ, vous avez appris la photo en faisant ce livre.
Voilà,
mais vous aviez quand même des outils, vous aviez un appareil photo au minimum.
Oui, j'avais un appareil photo, oui.
Donc vous êtes équipé de choses, vous êtes mis à travailler la photo sans être une spécialiste.
Non, tout à fait.
Bon, c'était peut-être aussi bien, non? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez échappé à justement... Alors, les photographes, souvent, ils ne voient pas les choses directement parce qu'ils regardent à travers l'objectif. Et vous aviez quand même ce regard déjà de l'enfance.
Je crois que c'est le regard du cœur aussi. Oui. C'est-à-dire que comme j'aime beaucoup ces coins, ces paysages, ces ambiances, Je pense que je savais déjà plus ou moins ce que j'allais photographier ou faire photographier par Alan. Et du coup, je veux dire, c'était un plaisir. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai, ça n'a pas été justement, il faut apprendre. Ou là où c'était plus dur, c'est quand ça a été la réalisation, c'est-à-dire InDesign, Photoshop et Lightroom. Là, c'était déjà moins simple pour moi. Oui,
mais c'était pas forcément votre
domaine, mais j'ai appris.
Oui. Mais c'était pas forcément nécessaire. On peut faire un livre de photos sans jamais toucher un ordinateur.
C'est-à-dire que j'ai fait des sorties photos. Donc entre la réalisation complète du livre avant sa version finale et ce qu'on voit sur l'écran, ça rend pas du tout sur le papier. Donc ça veut dire qu'il faut retravailler la photo. Voilà. Et donc ça, je ne savais pas ça au début.
Oui, oui.
Donc j'ai appris à... Bon, pas toutes sont retravaillées, parce qu'il y a certaines qui tombent pile poil, mais certains éclairages ont dû être un petit peu rectifiés pour que ça soit de belles photos.
Oui, oui, oui. Voilà. Non, mais c'est... Alors, oui, je crois que c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'entre l'œil et la photo, déjà, on a des surprises. Hein. L'œil, c'est un outil tellement performant, et qui en plus, il y a le cœur dedans et tout ça. Donc, on voit beaucoup de choses. Et puis, quand on prend les photos, on s'aperçoit que ce n'est pas ce qu'on pensait. Et après, passer effectivement... Mais ça, c'est le métier d'imprimeur. Hein, c'est le travail de passer effectivement de quelque chose qui est continu et lisse à l'imprimerie qui a fait le petit point. Et on s'aperçoit qu'il faut du travail. Donc ça, Alors... Aujourd'hui, il y a des outils comme Photoshop, etc. Mais il y a d'abord aussi ce métier qui est de transformer comme du texte, hein, de passer de quelque chose qui est dans son regard à quelque chose qui est sur du papier. Il y a beaucoup de pertes. Il y a une perte énorme entre ce que ramène l'appareil et puis... voilà. Mais ça demande justement d'avoir pensé un peu aussi le livre dans sa conception.
Oui, les mises en page aussi, ça demandait beaucoup de travail pour que l'harmonie des couleurs, le choix des photos, je sais pas combien, il y a des pages qui ont été refaites 20 fois pour pouvoir avoir celle que je voulais qui passe bien et qui est toujours l'émotion.
Heureusement, vous aviez une quantité de matière importante.
Tout à fait, ça aide.
Donc aujourd'hui, il y a bien 900 photos, vous dites, qui ont été conservées sur 12 000.
Je vois dans le livre que vous avez aussi mis des photos d'archives, donc des photos que vous avez récupérées, des photos de famille ou des photos qu'on vous a données, ou c'est pas que des photos que vous avez prises, là c'est des photos que vous aviez ou qu'on vous a...
Voilà, donc il y a dans le coin des Moustierins et un peu partout aussi dans le livre, dès que j'ai pu mettre des photos anciennes ou des cartes postales anciennes, par exemple pour le lac, pour montrer comment c'était avant, au début du livre.
Oui, il n'y avait pas le lac.
Voilà, donc ça ce sont les Moustierins qui m'en ont donné. Et puis aussi ma famille, là il y a une partie où il y a pas mal là où vous êtes, là. Il faut voir qu'il y a ma famille dessus. Et ça a été un travail. Le coin des Moustierins a été un travail commun, et ça leur a fait plaisir, puisqu'ils sont tous venus me dire « Ah, c'est super, hein, c'est émouvant aussi ». Et je suis contente de leur avoir fait plaisir. Voilà.
Bon, eh bien, c'est bien qu'on va se faire plaisir aussi, on écoute un peu de musique. Voilà. Sur Fréquence Mistral, Carole en parlait, la nature, avec ce fameux livre qu'elle vient de publier sur Moustier. Donc c'est un livre qui vous a demandé 2 ans et demi de travail. Et puis d'un seul coup, bon, le bébé sort après avoir remonté des pages plusieurs dizaines de fois parfois pour arriver à être content de ce que vous vouliez proposer au lecteur. Et d'un seul coup, le livre sort. Alors comment ça se passe? Vous l'avez présenté au Moustierin. Ils vous ont dit des choses ou ils ont rien dit?
Ah ben, il y a eu une série de jours de dédicaces où là les gens sont venus me dire qu'ils adoraient le livre. Mmh. Et donc j'ai eu essentiellement pour le moment des retours positifs. J'ai eu aussi des mails d'Alsace, de Paris, des SMS aussi. Donc ça c'était sympa. Des coups de fil aussi en direct.
Mmh, d'accord.
Et donc j'étais un peu inquiète. Hein. C'est sûr que quand on n'a jamais fait de livre... Et qu'on fait ça, on est quand même angoissé de se dire est-ce que ça va plaire, mmh. Est-ce que je suis pas passé à côté. Ça a été une aventure aussi passionnante puisque les gens sont venus me parler, me dire qu'ils le lisaient souvent, qu'ils y revenaient, ce qu'ils aimaient justement cette mise en page qui n'est jamais la même, où il est redécouvert encore à chaque fois des nouvelles photos, des nouvelles manières de voir Moustier. Et donc, c'était aussi un jeu pour eux de retrouver, de deviner où c'était.
Oui, l'avantage d'un livre de photos, c'est que ce n'est pas un livre en continu. On peut l'ouvrir à n'importe où et puis repartir de cette ouverture et puis dire, tiens, j'avais pas vu ça comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est ce qui fait un peu l'intérêt du livre. Parce que d'abord, il y a un peu de texte à la fin quand même. On raconte un petit peu l'histoire de Moustier en français, en anglais quand même. Mm-hmm. Mais il faut que les images parlent d'elles-mêmes. Et justement, il y a aussi des personnes âgées qui nous ont dit « Mais il est super parce qu'on n'arrive plus vraiment à lire. Mm-hmm. » Et ça nous rappelle vraiment des souvenirs de jeunesse, tous ces paysages, toutes ces ambiances. Et c'est vrai que les personnes âgées ont beaucoup apprécié le livre aussi.
Mm-hmm. Ben oui, mais elles sont comme vous, ça rouvre des choses qu'elles ont connues, ouais. Et quand elles couraient dans les rues de Moustier comme vous. Mm. Voilà. Donc ce livre, les Moustieriens l'ont accueilli comme étant leur livre aussi
Je pense qu'ils ont, je ne sais pas si c'est leur livre, parce qu'il y a eu déjà des livres, mais c'est un livre différent. Il est pas, c'est pas écrit, ce sont essentiellement des photos. Donc je pense que, voilà, c'était justement, je voulais un peu me démarquer de tous les livres d'avant de Moustier. Puis de toute façon, c'était même pas se démarquer, c'est je le ressentais comme ça. Je crois qu'il faut même pas se poser la question pourquoi, comment. J'avais envie de le faire comme ça. Et donc, c'est sorti.
Voilà. Donc vous avez eu de bons retours.
Oui,
Tout le monde est heureux de la sortie de ce livre. Alors, vous avez aussi voulu que ce livre profite à la commune. Donc vous avez choisi qu'une partie des bénéfices éventuels du livre puisse...
Non, plutôt des ventes. Une partie des ventes. Bénéfices, je ne sais pas si on aura.
Bénéficie justement à cette vie de création dans la commune.
Voilà, tout à fait. Donc, avec Patricia Brun, qui est actuellement maire de Moustier, et Pierre-Yves Chevalier, directeur de l'Office du tourisme, ils sont en train de regarder justement, puisque ça sera de cofinancer, d'aider à financer des projets sur le patrimoine, la culture et le handicap. Mmh. Ils vont regarder les projets en fonction du montant, bien sûr, qui sera issu des ventes. Hein. Mmh. Donc, c'est pour ça que tous les gens qui aiment bien les Alpes de Provence et qui sont amoureux de Moustier, qui aiment bien les photos, je les encourage à venir acheter le livre parce qu'ils participent ainsi au patrimoine du département et de Moustier aussi. Voilà. Mmh. Indirectement. Voilà.
Donc il y a un retour. Vous avez pris... Oui, il y a des pays où on dit si tu me prends photo, tu me voles quelque chose, tu me voles mon âme. Donc là, vous avez pris une grande partie, vous parliez du cœur et tout ça, vous avez pris une grande partie de l'âme de Moustier, mais vous le rendez quand même
à travers
de la beauté de ce livre et aussi au travers effectivement ce travail sur des projets. Alors, le handicap, vous avez parlé du handicap, pourquoi? C'est quelque chose qui vous tient à cœur ou qui tenait à cœur aux gens de la municipalité?
Non, c'est parce que on a dans la famille, on a eu et on a encore des personnes handicapées.
D'accord.
Et de ce fait, on y est sensible. ne serait-ce que pour accéder à, oui. à des spectacles ou accéder à des endroits de moussiers, parce que c'est pas facile non plus.
Non, non, mais oui, on peut voilà. courir dans les rues quand on est voilà. jeune, mais il y a des endroits que c'est pas un village très facile d'accès.
Non, voilà, donc il y a cet aspect-là. Mmh. Et il y a aussi, si vous voulez, le fait que je me disais que ça serait peut-être bien, mais je sais pas si c'est possible un jour, d'adapter ce livre, par exemple, aux aveugles. Est-ce que ça pourrait être fait en parler, de décrire les images, faire un parcours en braille dans le village pour voir les fontaines. Enfin, je ne sais pas, il y avait ce côté-là aussi. Voilà, il y a dans la famille quand même des personnes qui sont confrontées tous les jours à ça.
Donc en fait, c'est un livre qui ouvre sur beaucoup de choses. En fait, sur, c'est pas fini, quoi.
Le livre n'est pas fini. Ah non, je crois que l'aventure commence, je crois. Voilà. Je crois que il y a d'autres projets peut-être qui viendront par la suite. Donc on va voir plus tard. Donc là, pour le moment, on attend d'avoir des bonnes ventes cet été pour pouvoir après financer ce qu'il faudra financer voilà, à ce moment-là.
Alors, on reparlera, on n'a pas fini d'en parler, mais je veux dire, vous, une fois que ce livre est fini, que vous le portez aujourd'hui, est-ce que du coup, c'est votre premier livre ? C'est votre premier livre ? Est-ce que vous avez envie d'en faire d'autres, du coup ?
Oui, mais je crois que je vais bien réfléchir, parce que ce que j'ai voulu, je m'étais dit au départ, si j'en fais qu'un, je veux qu'il soit très beau. Donc, du coup, j'ai voulu faire un livre qui fasse un peu collection, qui soit le livre cadeau. Mais bon, c'est un coût quand même énorme. Donc du coup, si je dois faire un deuxième livre, je veux quand même qu'il soit aussi du cœur. Je prendrai le temps aussi et financièrement, faut repartir sur
alors, parce que c'est un livre que vous avez autofinancé.
Oui.
D'accord.
Voilà, sur mon argent personnel.
Non. D'accord, peut-être pas.
Comme c'était mon premier livre, je me suis dit, je vais quand même pas faire porter mes erreurs à des gens qui me feraient confiance et ça serait raté, quoi.
Ah bah oui, donc, mais ça c'est le travail, c'est le rôle de l'éditeur.
Oui. Il faut savoir que le monastère de Ségriès a cru en notre projet dès le départ et nous en a commandé une bonne partie. Et ça a été très sympa de leur part parce que vraiment. Là-dessus, on a eu le soutien de l'Office du tourisme et de Patricia Brun pour le créer. On disait, allez-y, on vous aidera pour récolter les photos, pour après le faire connaître. Et en même temps, le monastère de Ségriès et la Bastide de Moustier aussi. Donc, la Bastide, c'est Alain Ducasse, Bastide de Moustier. Donc, le responsable de la... a tout de suite aussi dit, oh, ça serait super pour Moustier un livre, puisqu'il n'y en avait pas.
Il n'y en a pas beaucoup de livres.
Il n'y en a pas beaucoup de livres sur Moustier, de photos surtout. De photos, voilà. Oui. Enfin, il y avait un très beau livre sur le livre
Donc, même avant, vous aviez déjà des gens qui s'engageaient.
Oui, voilà, ça c'était super. C'est-à-dire qu'on m'a fait confiance je crois que ça a été un super cadeau pour moi d'avoir cet enthousiasme avec moi et qui m'a apporté et qui me laissait m'empêcher de lâcher, quoi. Même si j'avais parfois des doutes, on en a eu des doutes avec Alan, c'est sûr, en disant mais on va y arriver, est-ce qu'on ne va pas y arriver ? Et ben, je disais, il y a des gens qui nous attendent, hein, donc on y va.
Non, mais c'est un vrai travail. De toute façon, faire un livre, c'est un vrai travail.
Oui, ça a été un vrai travail.
Oui, souvent, les gens pensent que les écrivains ou les éditeurs, etc., font des livres comme on fait un pain. Et pourtant, un pain, c'est compliqué. C'est un vrai art. Mais je veux dire, aussi simplement qu'on colle un timbre. Mais c'est vrai que c'est un travail. On le voit, vous avez travaillé pendant longtemps. Enfin, même plus que 2 ans et demi, parce qu'en fait, vous avez fait appel à toute une vie.
Et je crois que c'est ça. Vous pouvez dire ça, c'est-à-dire que c'est... Mais ça éclot, là. Pourquoi ?
Oui, mais c'est un degré de maturité qui fait que c'est comme une fleur, quoi. D'un seul coup, ça éclot. Parce que ça a maturé pendant...
Toute une vie.
Voilà. Et donc, ce livre, bon, c'est un assez gros livre. Il fait combien de pages ?
224.
224. Hein, vous savez par cœur combien de...
Oui, 1,3 kg. Et à la fin, il y a le nombre de pixels, je crois, qu'Alain a...
Chantal
c'est
le
comme
Varco.
Un bébé, en fait.
C'est tout à fait un bébé.
1,3 kg, tant de pages.
Donc, Chantal Ferrero, qui est là avec nous et qui est ambassadrice des éditions Parole. Et le feuillette depuis le début. Tu voulais dire quelque chose de...
Non, moi, je ne connaissais pas du tout ce livre. Du coup, je suis contente de le... découvrir les photos et d'avoir écouté tout ce que vous avez dit par rapport à la naissance de ce livre. Mais voilà, je trouve qu'il est magnifique. Donc, il faut l'acheter.
Non, mais,
il est très beau.
Moi, je trouve que vous n'avez même pas besoin d'aller à Moustier. Il suffit de regarder le livre. Il n'y a plus besoin d'aller à Moustier.
Si, si, quand même, parce que vous n'aurez pas les odeurs de la lavande, vous n'aurez pas le bruit des fontaines, vous n'aurez pas les galéjades des gens, la gaieté. Le livre reflète un petit peu l'âme de Moustier, je pense, oui. Mais franchement, il faut y aller, quoi. C'est quelque chose de... C'est une rencontre. Une rencontre. C'est sûr, il y a plein d'autres villages. Enfin, ça a été ma rencontre.
Oui, quoi. Non, voilà. Mais... Chaque village.
Et après, il va être, je suppose qu'il ne va pas être vendu que dans le sud ou à Moustier.
Alors voilà, je commence la deuxième partie du travail, qui était avant il y avait la partie avant de faire le livre. Maintenant, il y a la partie de le faire connaître et de le diffuser. Et là, je prends mon bâton de pèlerin et j'appelle les librairies et puis les maisons de la presse. Je suis tous les vendredis matin pendant le mois de juillet de 10h à 12h30 à Moustier pour le dédicacer.
À l'office de tourisme
Devant le musée.
Devant le musée de la faïence,
au moment où il y a le marché.
Oui.
Et sinon, je fais comme tout éditeur nouveau, récent, néophyte. Je découvre à mesure les obstacles les difficultés pour mettre en place. Mais bon, ça s'apprend, c'est comme tout. Il faut se lever tôt, appeler, travailler, décrocher son téléphone, envoyer un mail. Le livre plaît, c'est déjà ça. J'aurais pu que faire un livre et qu'il ne plaise pas. Donc déjà, il plaît, donc c'est déjà ça. Après, il faut prendre le temps de le diffuser. Voilà.
Mmh. Oui, non, mais c'est vrai qu'une fois qu'on dit toujours... Une fois que le livre est fait, on est au milieu du gué, parce que c'est vrai qu'autant la gestation, on l'a vu, peut être longue, peut être compliquée, peut être, même quand on n'est pas habitué, on peut se poser beaucoup de questions, savoir si on a bien fait, comment il va être reçu. Mais une fois que le livre est sorti, c'est comme les enfants, on n'a pas d'autre, on n'a pas d'autre choix que de les élever, de les porter et de les faire grandir. Et ça, c'est effectivement le deuxième métier de l'édition, c'est-à-dire faire un livre, il ne suffit pas que le livre soit imprimé. Après, il faut le faire connaître, le faire partager, qu'il arrive jusqu'au lecteur potentiel et les gens qu'on veut toucher. Alors, parce qu'on ne les connaît pas, en fait.
Oui,
on ne sait pas où ils sont et ce qu'ils peuvent, eux, attendre. Voilà. Mm-hmm. Donc, un livre, effectivement, on est parfois étonné de la façon dont il est reçu, bien ou mal. Mais il faut le défendre, quoi. C'est comme un enfant, quoi. Voilà. Avec ses avantages et ses handicaps aussi. Des fois, on peut dire il est lourd, il est gros, il est cher, il est pas cher, il est intéressant, il est pas intéressant. Voilà. Donc très beau livre. On passe un peu de musique et puis on en reparle un petit peu.
L'ambiance. Je veux un Molière, un César, un Oscar éphémère, un set d'or, un trophée, même acheté par ma mère, le prix Nobel ou Goncourt, un label de l'amour, une médaille du mérite ou de la Légion d'honneur. Je voudrais tant être en haut que je mets des talons hauts. Mon ego est si gros qu'il me fait culbuto. Je veux que rien ne s'effrite. Contagion de bonheur parce que moi je le mérite et que ça me fait pas peur. Le Grand Prix d'Avoriaz ou le Lion d'Or à la place. Un Louis d'Or, Palme d'Or, même acheté à prix d'or. Je voudrais tant être en haut que je mets des talons. Mon ego est si gros qu'il me fait culbuto. Je veux monter sur les marches durant le festival. Je veux qu'enfin on me remarque, faire partie des étoiles. Que résonnent les bravos, saluer même de dos. Une écharpe tricolore ou un scoop lettre d'or. Je voudrais tant être en haut que je mets des talons. Mon ego est si gros qu'il me fait culbuto. Je veux un procès dans Voici, un article dans Gala. Je veux monter sur le podium, une scène ou une estrade.
J'étais si timide, je voulais pour mon ego qu'il remplisse mon petit bide, qu'il soit un peu plus gros. Mais il a tant gonflé que je peux plus dire un mot sans qu'il veuille se montrer, ce saligo d'ego. Tout avait commencé à une soirée chez mémé. Elle voulait me faire chanter, monter sur le tabouret. Depuis je peux plus descendre, je peux plus être à niveau. Non, je peux plus descendre, mon ego reste en haut. Je voudrais tant être en haut que je mets des talons. Mon ego est si gros qu'il me fait culbuto. Je veux une victoire, une médaille, un flocon, une étoile. Ma photo dans le journal, mon portrait sur une toile. Quelle que soit la récompense, je veux qu'à moi tout le monde pense. Avoir juste si je suis sage, avoir juste une image. Ouais, c'est ça, une image. Car tout avait commencé à une soirée chez mémé. Elle voulait me faire chanter, monter sur le tabouret. Depuis je peux plus descendre, je peux plus être à niveau. Non, je peux plus descendre, mon ego reste en haut. Mon ego reste en haut, mon ego reste en haut.
Ego, ego, son ego reste en haut.
On retrouve Fréquence Mistral pour l'émission Les Livres ont la Parole. On vient d'écouter une chanson d'Odile, qui est la journaliste de Fréquence Mistral Digne. Donc on retrouve notre invitée, Carole Sénèze-Cosanet. Voilà, j'ai du mal à retenir tout ça. Donc pour son livre dont on vient de parler longuement, qui est donc ce livre qui porte le nom du village de Moustier-Sainte-Marie, un des rares livres de Moustier, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. L'autre fois, je discutais avec notre très bon libraire, Jobert, la famille Jobert de Riez, et qui me dit mais on est super content parce que il y a rien sur Moustier, quoi. Donc là ils ont effectivement un livre intéressant à proposer. Les libraires aussi, ils sont souvent, on leur demande des choses, voilà. Et donc très beaux livres de photos qui ont été faites à la fois par vous et puis d'autres personnes, et avec aussi beaucoup de photos venues des habitants du village de Moustier. Est-ce que vous avez un autre projet de livre? Vous avez envie, maintenant que vous êtes venu auteur de livre, est-ce que du coup, je vais faire tous les villages de Bretagne, puisque vous y vivez?
Non.
Ou alors tous les villages qui entourent.
Pour le moment, je n'ai pas de projet, on va dire, dans le département des Alpes-Provence. Pour le moment, je réfléchis, je ne peux pas dire quoi que ce soit parce que ça serait faux. Et par contre, c'est sûr que le goût de la photo et le goût de la mise en page et de faire quelque chose de sympa, ça, je pense que je regoûterai. Mais est-ce que ça sera sur une commune ou autre chose? Je ne sais pas.
Parce que vous aviez quelle profession avant ça, si c'est pas indiscret?
Et j'ai travaillé pendant 30 ans, vous voyez, c'est par phase de 30. 30 ans chez Orange, France Télécom. Et j'ai été à la fois chef de projet, responsable de com, marketing. Donc j'ai bourlingué Marseille, Nice, l'Allemagne, le plateau Lannion. Et donc Rennes, et donc ce qui fait que j'ai pas mal, puis j'étais allée travailler à l'international aussi.
D'accord.
Donc ce qui fait que je revenais chaque fois à Moustier. Je ne ratais jamais une occasion de revenir dans ce village et puis visiter aussi le département, parce que j'ai de la famille quand même un peu de partout dans le département. Voilà.
D'accord. Donc c'est un nouveau métier en fait que vous.
Oui, je démarre un nouveau métier. Un
métier d'auteur, voilà. Photographe.
Voilà.
Oui, parce que vous dites, bon, j'avais ce projet-là, mais on a le sentiment, à vous écouter, que vous avez attrapé un virus, là, et que vous avez peut-être envie de continuer.
Je suis habitée, comme on dit, par maintenant ce... C'est vrai que je ne peux pas être dans la rue ou à regarder maintenant le paysage sans me dire, ah, ça ferait une super photo. Mais bon, c'est sympa.
Oui. Ouais,
c'est agréable à vivre. C'est pas trop compliqué et c'est agréable à vivre.
Moi, je voudrais peut-être poser une question parce que vous avez parlé de l'étoile. Moi, je connais Moustier, je suis déjà allée quelques fois, mais je ne connais pas la légende de l'étoile entre les deux rochers. Vous aviez parlé tout à l'heure.
Alors, la légende du duc de Blacas elle a été présentée par Frédéric Mistral. C'est Frédéric Mistral qui l'a fait connaître en disant, voilà, c'est donc le duc de Blacas qui était prisonnier au temps des croisades et qui s'était dit, si je reviens dans ma patrie, donc qui est Moustier, je ferai faire mettre une étoile et une chaîne entre les deux falaises. C'est ce qu'il a fait, il a réussi à revenir à Moustier et donc il a tenu sa promesse. C'est pour ça que mon père me disait toujours, si tu veux, tu peux, regarde, le duc de Blacas. Voilà.
Alors on dit que c'était sa gourmette.
Ah.
Voilà. On dit que c'était parce que les nobles, les chevaliers portaient une gourmette qui n'était pas portée au bras comme les présidents de la République d'aujourd'hui, mais qui était portée autour du cou. En fait, c'était une espèce de collier et qui était souvent qui montrait leur richesse, enfin leur appartenance, etc. Portait ça comme un collier et donc il aurait dit je la tendrai.
Voilà. Entre les deux falaises.
Voilà. Donc enfin, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'histoires autour de cette chaîne qui tombe de temps en temps.
Oui, ça arrive. Hein, on a fêté le 6 et 7 juin les 20 ans de la remontée d'étoiles. Elle était retombée aussi 12 ans auparavant, il y a 32 ans, en 1967 de mémoire. Et donc, chaque fois, on fait la fête. À Moustier, on aime bien faire la fête. Hein, donc, c'est toujours des retrouvailles sympathiques. Il y a une ambiance particulière à Moustier qui mélange tous ces univers, l'univers mystique et spirituel, l'art, la faïence, toutes les petites places, les fontaines. Il y a énormément d'attrait et de charme qui font que ça fait un beau village qui n'a pas gagné, bien sûr, il y a 2 ans. Mais qui mérite d'être visité et pas passer trop vite. C'est un village qui se découvre et il faut y rester plusieurs heures, voire plusieurs jours pour voir toute sa beauté.
Je pense qu'il faut y venir. Moi, j'ai passé pas mal de temps parce que j'y ai travaillé. Donc, et c'est vrai que... Et puis, il y a des moments, il y a des saisons, il y a des moments de la journée, il y a des heures, il y a tout un travail d'ombre et de lumière sur ce village qui est au pied d'une falaise. Quoi. Donc, il y a des éclairages qui changent énormément. Quoi, qui sont... assez intéressant, on peut être complètement dans l'ombre ou en plein soleil, à des moments différents, au même endroit. Quoi, voilà. Alors ce livre, est-ce que vous avez l'impression qu'il est aussi une pièce de la faïence, qu'il a ce côté coloré, ce côté vivant? Vous l'avez voulu aussi comme un bel objet?
Oui, voilà, je crois que c'est vrai que quand on connaît Moustier, on est attiré par la beauté du site. Et aussi, on est entouré de belles pièces, de faïence ou de terre vernissée. Et je crois que j'ai voulu justement faire un beau livre pour rester à la hauteur du village.
Oui, parce que c'est aussi Moustier, c'était une ville de travail. Hein, je veux dire, il y a eu des faïenceries où il y a encore toujours beaucoup de gens. On n'a pas que des créateurs, on a tout un tas de gens qui font. J'en connais un certain nombre qui travaillent chez tous les grandes familles et qui produisent. Au sens noble du terme, des ouvriers de la faïence et qui produisent des dessins, qui travaillent la terre, qui cuisent, etc. Je veux dire, il y a vraiment un savoir-faire qui est assez étonnant, quoi, qu'on voit pas forcément, parce que les vitrines cachent souvent les gens qui travaillent, mais je veux dire, et c'est ça aussi
qui anime l'âme de Moustier. Voilà.
Oui, dans cette âme de Moustier, une ville importante. C'était un village important.
Oui,
ça a été plus grand que Toulon à une certaine époque. Toulon était un petit village de pêcheurs, alors que Moustier c'était déjà un lieu de où il y avait énormément de faïenciers qui fabriquaient.
Et là où j'ai pris plaisir justement, c'est à lire un certain nombre de livres sur l'histoire de Moustier, et c'est là qu'on découvre justement toute cette histoire qui a marqué le village et qui le marque toujours, parce que les traditions restent, les artisans sont fiers de leur travail, il y a des nouvelles créations aussi, il y a la faïence, on va dire traditionnelle, mais il y a aussi des nouvelles créations qui sont très très belles, et donc il faut aller les voir.
Oui, oui, il y a des, ouais, y a des anciens, puis il y a des jeunes, il y a un certain nombre de courants créatifs, c'est intéressant.
Oui. Voilà, oui. C'est quand même aussi une cité artistique, hein, c'est pas simplement historique. Mmh. Il y a toute une histoire, mais il y a aussi tout cet aspect artiste qui est sympa, puisque les gens sont habités aussi par ces sensations, ces visuels, ce travail, comme vous disiez, tous les plans. Mmh.
Voilà, ben on arrive au bout de cet entretien. Donc on rappelle, c'est très simple, hein, le titre de ce livre, c'est Moustier Sainte-Marie. Donc ça parle d'un village, mais aussi de tous ses habitants, toute son histoire. Vous vouliez dire quelque chose de particulier avant de finir?
Non, ben, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à faire ce livre, toutes les personnes qui l'ont acheté, et tous les amoureux de Moustier, des Alpes de Provence où il émane à la fois une authenticité et en même temps quelque chose de naturel qui persiste, et c'est ce que j'aime beaucoup.
Oui, oui. Ben, ce qui est intéressant, c'est aussi on a tout un tas de photos inhabituelles, parce que quand on suit les chemins et les rues de Moustier, on a un certain regard. Là, il y a beaucoup de photos qui sont prises, vous en parliez au début, qui sont prises de haut, du ciel, et on a une vision étonnante, y compris des endroits où on est amené à marcher. Voilà, on n'a pas du tout cette vision-là quand on a les pieds sur terre, quoi. Et je trouve que c'est un autre regard qui donne quelque chose de différent sur ce village. Voilà.
Alors je fais un petit clin d'œil aussi aux Bretons, oui, hein, qui m'ont aidé pour les photos, pour l'imprimerie cloître aussi, qui m'a beaucoup aidé parce que j'étais totalement amateur, hein. Donc il m'a bien soutenu pendant le projet, et puis toutes les personnes, ma famille, qui m'ont porté pendant les 2 ans et demi.
Mmh. Ils vous ont porté ou supporté?
Les deux. Je ne vais pas le dire. Les deux. Parce que je travaillais très tard la nuit, donc ce n'était pas toujours facile. Mmh. Mais voilà, non, je crois que je remercie vraiment toutes les personnes qui sont autour de ce livre. Mmh. Et les futures, voilà. Mmh. Futures personnes qui apprécieront le livre.
D'accord. Bon, ben, merci Carole pour ce très beau livre.
Donc, merci Chantal.
On rappelle donc le livre de Carole Sénèse-Cosané qui s'appelle Moustier-Sainte-Marie, un très beau livre de photos. Il y a aussi toute une partie d'explications en français et en anglais pour découvrir les mystères de Moustier. Voilà, un très très beau livre en vente dans toutes les bonnes librairies de la région à Moustier. Pas à Moustier, il n'y en a pas, mais à Riez, à Ops, etc. Voilà. Un peu de musique?
Oui.
Musique. Oui, il y en a.
Ce soir, c'est une soirée entre copines. On ira au ciné et puis après, on se retrouve toutes pour dîner chez Martine et papoter, bien sûr, toute la soirée. Un petit verre de blanc, un rire de temps en temps, analyser les gens et les comportements. Parler de nos hommes, bien évidemment, de ce qui nous étonne et qui revient souvent. Je comprends pas, je sais pas ce qu'il a, il parle pas. Chaque fois je veux lui parler, il s'en va, il s'en va. Pourtant il est gentil, il est mignon. Hier soir m'a mijoté un bourguignon. Demain c'est une journée entre copines. On ira se balader et puis après, footing, stretching ou bien shopping. Tant de jolies choses soldées, faudrait en profiter. Et autour d'un café ou d'un thé non sucré, on parlera sûrement de nos enfants, de ce que l'on aimerait ou de ce qu'on rêverait de pouvoir communiquer, et ce qui revient souvent. Je comprends pas, je sais pas ce qu'il a, il parle pas. Chaque fois je veux lui parler, il s'en va, il s'en va. Pourtant il est gentil, il est mignon. Hier soir m'a mijoté un bourguignon. Ah, ce qu'on est bien entre copines. Ce qu'on aime bavarder autour d'un thé, d'un café non sucré, c'est pour la ligne. En s'échangeant bien sûr nos recettes de cuisine. Et pendant ce temps, que fait monsieur Bertrand à l'appartement? Y est-il en ce moment? bien calé devant l'écran, ou bien tout simplement à papoter lui aussi avec son pote l'étudiant. Et lui, ben, qu'est-ce qu'il dit, le pote Bertrand ?
Le pote Bertrand, il... Je comprends pas, je sais pas ce qu'elle a après moi. Chaque fois que je fais retagada, elle veut pas. Pourtant, j'étais gentil, j'étais mignon. Hier soir, j'y ai mijoté un bourguignon. Allez avec moi. Je comprends pas, je sais pas ce qu'elle a après moi. Chaque fois que je fais retagada, elle veut pas. Pourtant, j'étais gentil, j'étais mignon. Hier soir, j'ai mijoté un bourguignon.
Les filles, je comprends pas, je sais pas ce qu'il a, il parle pas. Chaque fois, je lui parlais, il s'en va, il s'en va. Pourtant, j'étais gentil, j'étais mignon.
Il était mignon.
Hier soir, m'a mijoté un bourguignon.
Une dernière fois,
je comprends pas, je sais pas ce qu'il a, il parle pas. Chaque fois, je lui parlais, il s'en va, il s'en va. Pourtant, il est gentil, il est mignon. Hier soir, m'a mijoté un bourguignon vachement bon.
Voilà, donc on retrouve l'émission sur Fréquence Mistral digne, Les Livres ont la Parole. Donc on a reçu aujourd'hui donc Carole Sénès-Cosanet qui nous a présenté son très beau livre sur Moustier-Sainte-Marie. Et puis on reçoit aussi, pour un deuxième petit entretien, Chantal Lemarchand. Qui, alors on est entré dans la deuxième partie de notre émission qui est la partie pub. On va dire, hein, donc vous pouvez couper. Hein, non, mais c'est pas... et donc, qui aussi travaille au sein des éditions Parole comme ambassadrice. Donc, son boulot, c'est sur une zone de défendre un petit peu le travail d'une petite maison d'édition. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Chantal ? Pourquoi ça t'a intéressé de faire ce rôle ?
Disons que moi, ça fait pas très longtemps que j'habite dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Je travaillais avant sur Aix-en-Provence dans un théâtre et j'ai eu envie de, du coup, en déménageant, j'ai eu envie de changer de maison, de vie, de travail. Et donc les éditions Parole, je connais depuis pas mal d'années, on va dire, depuis la création même. Et du coup, quand Jean m'a proposé d'être ambassadrice sur le département 04, ben j'ai dit oui. Et là, je vais commencer à... Alors, je fais quelques marchés, dont le marché, le joli petit marché de Pierre-Rue, qui est un marché où il y a... Cinq producteurs, voilà. Donc il y a un marchand de légumes, une jeune femme qui fait du pain, une autre qui fait du fromage de chèvre, un autre qui fait du porc, et moi qui viens avec mes...
Qui fait des livres.
Qui fait des livres, oui. Voilà.
Non, mais c'est important de dire, parce que c'est... Les éditions Parlons, on se considère quand même comme un producteur de... On n'est pas du tout, petit éditeur, on n'est pas du tout dans le monde de l'édition où c'est des industriels, tandis que là on est des artisans producteurs de livres comme d'autres produisent effectivement du pain. Et donc un boulanger, il ne se contente pas de faire du pain, il est en face des gens qui viennent le chercher. Et c'est pareil pour les livres. C'est pour ça qu'aussi il y a ce travail en direction des lecteurs. On en parlait, Carole, il y a ce travail-là d'aller porter ses livres jusqu'aux gens. Où vont les gens depuis le Moyen-Âge sans qu'il y ait besoin de faire d'affiches, de publicité, les marchés. Et c'est sûr qu'on a commencé comme ça, hein, les éditions Parole, au début, et les deux, quand on a sorti nos premiers livres, on est venu vers les librairies. Et les libraires, les pauvres, ils sont plutôt mal en point et ils sont submergés par les livres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit 90 000 titres par an en France. Vous imaginez, jamais un libraire pourra les lire, même pas le centième de ça. Ils ne peuvent pas les connaître tous. Et donc, petit éditeur, on n'a pas beaucoup de chance d'arriver jusqu'à se faire entendre par eux, parce qu'ils sont beaucoup sollicités par les gros, qui ont des moyens forts, hein, de persuasion. Et donc, on s'est dit, comment on va toucher un lectorat ? Au début, on s'est dit, est-ce qu'on n'arrête pas tout, quoi ? Donc quand on s'est mis à faire les marchés, on s'est aperçu qu'il y avait un retour intéressant. Pas vrai, Chantal ?
Oui, oui, oui. Donc là, le marché de Pierreux, qui est vraiment un tout petit marché, mais où il y a pas mal de gens qui passent et qui viennent à mon stand. Après, j'ai fait un joli stand aussi, hein, c'est pour ça qu'ils viennent. Mais qui me posent plein de questions, qui les trouvent jolis, parce que c'est vrai qu'ils sont jolis, ces livres. Ils sont... Et... qui connaissent quand même, surtout l'homme semence d'ailleurs. Beaucoup de gens connaissent l'homme semence. Et voilà, donc on discute, y a un contact, ils posent des questions, ils me donnent leur adresse pour leur adresse mail ou leur téléphone pour que je puisse les prévenir quand il se passe un événement, parce qu'il se passe beaucoup d'événements quand même, entre les soupes aux livres. Les lectures dans les lieux ou voilà ou chez l'habitant pourquoi pas d'avoir juste une salle à manger et on peut faire des lectures, on peut faire venir des auteurs et jouer de la musique, enfin faire plein de choses. Il y a plein de choses à faire, je pense.
Oui, puis on s'est aperçu qu'on avait aussi un devoir d'animation du territoire qui nous nourrit. Donc, et puis, donner la parole, notre slogan, c'est donner la parole, c'est donner la vie. Donc, effectivement, on donne la parole à des auteurs qui ont quelque chose à partager avec les autres, que ce soit des idées, des connaissances, des savoirs, mais aussi des vécus, des sentiments, puisque c'est des choses qui touchent les autres. Mais donner la parole, on s'est aperçu avec cette fameuse affaire des soupes aux livres. En fait, c'est une invention qui date des gens qui étaient dans le Verdon il y a près de 400 000 ans. C'est la veillée, quoi. Les gens se réunissaient et puis échangeaient, même quand ils ne parlaient pas encore, ils échangeaient un certain nombre de choses. Et là, c'est pareil, on s'aperçoit que beaucoup de gens n'ont jamais la parole, c'est toujours les mêmes qui parlent. Hein. Et donc, ils ont des choses à dire et à partager. Et on s'aperçoit dans ces soupes aux livres, nous, on parle de nos livres, on les présente, mais toute personne présente peut lire, dire, compter, raconter, chanter. Et il y a plein de gens qui viennent et qui expriment des choses, que ce soit des jeunes sous forme de rap ou des personnes, des anciens qui racontent les vieilles histoires du village, quoi. Et il y a vraiment ce partage. Et les marchés, ce que ça a de particulier, les marchés, c'est qu'il y a tout un tas de gens parce qu'ils nous l'ont dit. Ils nous ont dit, mais moi, je ne rentre jamais dans une librairie, parce que ce n'est pas ma culture. Chez nous, il n'y avait pas de livres, et on m'a jamais emmené, mes parents ne m'ont jamais emmené dans une librairie. Fait que je n'ose pas rentrer. Je veux dire, c'est culturel, quoi. Par contre, là, on est entre les poireaux et le miel, et ils s'approchent, on voit qu'ils regardent. Donc, on peut entrer en communication, leur dire, ben voilà, comme vous avec votre livre sur Moustier, dire, ben voilà, ben j'ai fait ce livre parce que j'avais envie. Et à ce moment-là, la communication démarre, et c'est un échange. Et je crois que c'est important. Entre vous êtes aussi, faire ce livre, c'est un travail d'artisan, hein, d'artiste, mais d'artisan. Et donc, c'est important d'être capable d'expliquer aussi comment on l'a vécu, fabriqué, quand on est face à des gens qui peuvent s'y intéresser. Voilà. Donc, Chantal, comment les marchés, et puis un certain nombre d'autres choses. Voilà. C'est aussi aller voir l'ambassadeur, c'est celui qui, sur un territoire, va pouvoir proposer effectivement des animations avec éventuellement d'autres éditeurs, d'autres choses. Aller vers les médiathèques, vers les libraires aussi, pour leur faire découvrir. Parce que c'est pas facile, quoi. Hein, quand on est, quand on n'a pas les moyens d'une grande maison d'édition qui arrose presque d'office, comme ils font avec leurs nouveaux livres, on ne peut pas se permettre ça. Donc c'est plutôt un travail de fourmi, mais un travail... voilà, c'est pour ça que le mot d'ambassadeur a été intéressant pour nous, parce que c'est un travail aussi d'aimer ce qu'on fait, quoi.
Non, oui, oui. Oui. Là, j'ai pas pris les dates, mais il y a un certain nombre de salons de la petite édition et des choses qui vont se passer, peut-être pas pendant l'été, parce que juillet-août, je pense que c'est peut-être un peu, pas creux, mais moindre. Pardon, je parle pas devant le micro. Mais à partir de, je pense, septembre, octobre, il va se passer plein de choses. Donc, je pourrais revenir pour donner des dates ou des choses comme ça, si c'est possible.
Oui, oui. Curieusement, l'été n'est pas favorable à nos métiers d'éditeurs. Sauf si on a un des livres très particuliers. Mais les gens sont en vacances. Hein. Vacances, c'est aussi... Il y a une forme de vide. Alors, il y a des gens qui se mettent à lire parce qu'ils ne travaillent pas. Mais il y a un certain nombre de gens qui lisent et qui sont plutôt... des moments où ils regardent. Hein. Vous parliez tout à l'heure de regarder autour de soi les villages qu'on visite. Il y en a qui lisent moins, des gens. Mais par contre, par rapport à tous ces petits salons, il y a une concurrence terrible. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites la moindre manifestation dans un village, vous faites le tour des 25 communes qui ne sont pas loin et il y a 25 manifestations en même temps. Donc... on travaille plus ces veillées que sont les soupes aux livres. On fait beaucoup plus l'hiver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive dans des villages où, en hiver, il n'y a plus rien. Il n'y a plus les vides-greniers pour les touristes. Il n'y a plus les fêtes avec les feux d'artifice, les bals mousses, les machins, les trucs. Et donc, les gens sont contents aussi de se réunir au chaud, de partager un bol de soupe et puis d'échanger justement ce qu'ils ont à partager.
Bon, après, c'est vrai que l'été, c'est quand même propice à la lecture. Il y a beaucoup de gens qui achètent un livre pour lire sur la plage, pour lire dans le train, dans la voiture. Donc, c'est vrai que les petits marchés, comme celui de Pierre-Rue, où je vais. D'ailleurs, ce marché-là, ce sont les producteurs qui ont créé une association qui s'appelle Le Bonheur est dans le panier et qui promeut, je pense qu'on dit ça, justement la vente sur les marchés des petits producteurs locaux, le maintien du marché, voilà, pour les producteurs locaux.
Ah oui, mais c'est important. On avait justement à une époque, il y a quelques années, créé une association qui s'appelait Diagonale pour réunir justement les gens qui viennent. Vous savez, le monde est divisé dans le monde du travail. Il y a c'est divisé en chambres, comme un appartement. Il n'y a pas de cuisine d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a essayé d'en faire. Donc il y a la chambre de commerce, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture, et c'est des choses qui sont très séparées. Et donc vous ne pouvez pas faire, alors que produire des poireaux ou produire des livres, ou produire du pain, ou produire de la faïence, je veux dire, c'est un métier de création, c'est un métier d'artisan, et je veux dire, les problématiques sont les mêmes. Hein, et les savoir-faire acquis sont tout à fait comparables, et la rencontre avec les éventuels consommateurs, entre guillemets, de nos produits sont à peu près similaires, les nécessités d'encontre. Donc c'est vrai que ces marchés de producteurs, c'est essentiel, quoi. Vous pouvez pas, si vous produisez du pain, vous pouvez pas le vendre à l'autre partie, à l'autre bout de la France, quoi. Sauf si vous êtes une grosse chaîne, mais je veux dire, c'est beaucoup les circuits courts, un travail de présence locale, et petit à petit les gens... Alors c'était marrant parce qu'on a produit un livre qui s'appelle Le pain, le levain et les gènes de François Rodier. Et un jour, il y a une dame qui m'appelle et qui est boulangère en Champagne et qui me dit, voilà, je suis boulangère et votre livre, je fais les paniers pour Noël, j'aimerais le mettre dans le... Et puis elle m'explique que donc son mari est agriculteur et elle s'est mise à faire du pain, elle s'est passionnée par ça, elle est devenue boulangère, elle a créé son métier de boulanger dans son village. Et elle s'est aperçue que si elle ne vendait que dans son village, elle n'arrivait pas à gagner sa vie. Donc elle s'est dit, j'ai commencé à faire les marchés dans les villages alentours. Mais en même temps, je ne pouvais pas tenir ma boutique. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, je laisse mon pain dans la boutique, et puis les gens viennent, il y a le prix qui est marqué dessus, et puis il y a une urne, ils mettent l'argent dedans. Et elle me dit, ça marche très bien, jamais volé de pain. Et je crois qu'il y a effectivement tout un tas de choses à réinventer comme ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si on fera ça avec les livres, mais...
Ben oui, moi je pense, hein, pourquoi pas. Voilà.
Donc il y a une présence, les gens défendent cette présence, ils ont besoin de leurs artisans, de des gens qui les nourrissent aussi bien de pain que de lecture, que de produits agricoles, que de produits d'art. Voilà, on a besoin aussi de beauté, que ce soit un beau livre comme celui sur Moustier, ou bien de belles assiettes, ou même d'une simple œuvre graphique qui, pour certains, n'a aucune utilité. Voilà. Un petit peu, donc, le rôle d'ambassadeur, c'est d'être présent sur un territoire et de présenter le travail qu'on mène avec les auteurs. On est une coopérative, on est une SCOP, Et donc, voilà, les auteurs écrivent des choses qu'ils ont à partager. Et si on ne va pas les porter vers les gens, ben, ça ne sert à rien, quoi. Faire un livre, si on ne le porte pas, ça reste dans des cartons. Tu voulais dire quelque chose, Odile ? Bon, et toi, Chantal ?
Je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Oui. Voilà, vous pouvez me retrouver au marché le samedi matin, Pierre, entre autres, parce qu'après, il y aura d'autres événements, mais pour l'instant, c'est un peu ça. Voilà.
Bon, et bien, de toute façon, on en reparlera de ce métier. Enfin, oui, c'est aussi une façon de créer, je dirais, de l'emploi, hein, des petits emplois. Alors aujourd'hui, on commence par petit, puis ça grandit, parce que dans le monde actuel, si on n'invente pas nos nouveaux métiers, eh bien, ce n'est pas les autres qui le feront pour nous. Et autour d'une petite maison d'édition comme la nôtre, hein, on a 10 ans et on a fait 80 livres, c'est très difficile de vivre. On ne gagne pas grand-chose par livre, parce qu'il y a le coût de fabrication, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais petit à petit, il y a quand même des gens qui arrivent à tirer une partie de leur revenu, que ce soit Cécile, notre maquettiste, que ce soit tous ceux qui travaillent dans l'imprimerie, qui est celle de Gémenos, qui s'appelle Horizon, que ce soit des gens qui s'occupent de toutes les expéditions de nos livres, voilà, ou bien les ambassadeurs. Petit à petit, il y a des bouts de métier, des bouts d'emploi. Voilà. Sinon, je voulais parler des derniers livres qu'on a publiés. Parmi eux, on en avait déjà parlé, tout le travail de recueil de témoignages sur l'immigration. Il y a eu une série de livres. Ça se passe dans le sud-ouest de la France. Ça a été un travail qui a été mené dans une toute petite vallée de Dordogne, qui s'appelle la vallée du Drô, mais ça aurait pu être dans n'importe quelle vallée de France. Et il se trouve que, bon, il y a eu beaucoup d'immigration, y compris intérieure, parce que c'est une zone où, après la guerre de 14, il n'y avait plus d'hommes. Hein, et donc, les premiers à être transportés ont été les Bretons, qui ont été transportés massivement par l'État français en 1920. Ensuite sont arrivés les Italiens, chassés par différentes causes. Ensuite, il y a eu les Espagnols. Et à chaque fois, on a publié un livre de témoignages sur la façon dont ils étaient arrivés, accueillis, etc. C'est très intéressant, y compris aussi la façon dont les gens du CRU les ont accueillis. Donc, il y a tout ce recueil de témoignages qui a été mené par une association qui s'appelle Langage Pluriel. Et donc, après les Bretons, après les Italiens, après les Espagnols et après les Alsaciens, parce qu'en 1939, la moitié du Bas-Rhin a été déplacée pour des questions de militarisation de la zone frontière. Par exemple, la ville de Strasbourg a été transportée en totalité et la mairie de Strasbourg était à Périgueux, de 1939 à 1940. Et pour finir, pour aller plus loin, on s'est aperçu qu'il y avait les gens avaient aussi dans leur culture, ils amenaient leur langue la plupart du temps. Hein. Les Alsaciens ne comprenaient pas les Périgourdins et inversement, et pas plus que les Italiens. Donc tout le monde était à égalité, les Bretons aussi, ils ne comprenaient pas la langue de là-bas. Et donc, par contre, ils amènent avec leur langue une autre forme de langue qui est celle du goût, hein, qui est celle de la nourriture. Donc là, le dernier livre de la série, enfin c'est peut-être pas la fin, mais le dernier livre paru dans la série s'appelle « La cuisine d'un pays à l'autre, 100 recettes immigrées, la cuisine transmise dans les familles d'ici et d'ailleurs ». Donc on a effectivement des recettes qui viennent de Dordogne, d'Alsace, d'Italie, du Portugal, des Pays-Bas, d'Espagne, de Bretagne, d'Écosse, d'Angleterre et de Belgique. Parce qu'on a aussi des immigrés plus récents, qui sont des immigrés, plus de l'envie, qui sont pas forcément poussés par des nécessités dramatiques, mais qui ont envie de venir au soleil, par exemple, ou dans le midi, dans des parties de France ou d'un autre pays. Voilà, donc, par Langage Pluriel. Alors, on avait aussi publié un roman de grimpeur qui s'appelait « Meurtre au Verdon », par Barney Vaucher, qui est un des grimpeurs historiques du Verdon, et des Calanques, et qui a fait un deuxième roman polar avec la même enquêtrice qui s'appelle le capitaine Nicole Leloup. Et cette fois-ci, ça se passe dans les Calanques. Alors, c'est l'histoire de jeunes qui... c'est difficile de gagner sa vie en grimpant. Donc, ils font des métiers que, que font beaucoup de jeunes grimpeurs aujourd'hui, par exemple des métiers de acrobatique, c'est-à-dire on va aussi bien travailler sur les façades, couper des arbres, etc. Et ceux-là, ces deux-là, ça leur donne des idées. Comme ils savent bien grimper, ils font une chose qui est absolument immorale, et c'est qu'ils grimpent le long des façades pour aller cambrioler. Mais la morale est sauve parce qu'ils cambriolent que les villas des riches qui sont au bord des falaises des Calanques ou dans des immeubles de richissimes. Voilà, donc la morale est sauve. Ça s'appelle « Abat les masques ». Voilà. Et puis, dans la collection « Mains de femmes », les derniers, c'est deux romans. Il y a celui de Mireille Barbieri qui s'appelle « C'était en février ». Hein, c'est des romans dans la collection « Mains de femmes » qui viennent de sortir. Et puis, il y a un autre qui s'appelle « Lille, les sept nuits d'Ève à Lilith ». Voilà. Donc, deux romans, le deuxième étant plutôt un roman initiatique. Alors que c'était en février, c'est intéressant parce que c'est la rencontre d'un jeune qui part sur la route dans nos campagnes françaises. C'est la rencontre avec nos campagnes, l'arrière-pays, quoi, et qui découvre et puis est reçu par des gens. Il rencontre en particulier une vieille dame bizarre qui vit toute seule, une vieille dame riche dans son espèce de grosse propriété. Et il va un peu travailler pour elle et puis découvrir qu'il y a tout un secret de famille qu'elle va finir par lui révéler. Mais voilà, c'est aussi cette façon d'entrer dans nos campagnes. Voilà. Un petit peu. Sinon, justement, Chantal parlait d'un certain nombre de manifestations. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir nous retrouver dans les semaines à venir cet été, quand même, donc au marché de Pierru, on l'a entendu. Ouais, Chantal, le marché de Pierru. Il y a d'autres ambassadeurs aussi, en particulier dans le Bavard. On a l'ambassadeur du Bavard. Ouais, bon, il parle aussi beaucoup, comme moi. Et puis, on va avoir plusieurs manifestations. Là. Chantal parlait de petits salons. Le week-end prochain, on est à Montfroc, dans la vallée du Jabron. C'est dans la Drôme, c'est le bout de la Drôme complètement. Et donc, c'est une fête du livre qui s'appelle Arlire et qui existe depuis plusieurs années, où il y a tout un tas de petits éditeurs. C'est ça qui est intéressant, c'est dans ces salons comme Arlire, comme d'autres, on peut rencontrer tout un artisanat du livre qu'on découvre pas facilement dans les librairies parce que c'est noyé, tandis que là ça permet de faire son marché de découverte, hein, de choses différentes. Et puis il y aura à Riez le 9 août un événement important qui est le salon du livre qu'organise notre excellent libraire Jobert, Pascal et Aline Jobert à Riez, avec il y aura une vingtaine, une trentaine d'auteurs, beaucoup d'auteurs de polar. Hein, il y en a des très connus, il y en aura beaucoup de moins connus, voilà. Et puis, moi, je fais un marché aussi. Hein, tous les jeudis soirs, j'attaque un marché à Ops, dans le Var, un marché nocturne, qui permet aussi de rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs. Un peu de musique, avant de dire au revoir. Alors, on se retrouve pour se dire au revoir. C'est la fin de notre émission, Les Livres ont la Parole. Donc, on a reçu aujourd'hui donc Carole Sénès Cosanet. Et tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. Bien sûr qu'on peut trouver le livre à Moustier. Je parlais des libraires. C'est vrai qu'il n'y en a plus à Moustier. C'est triste. Mais on peut les trouver à plusieurs endroits dans la ville. Dans quel endroit, par exemple, Carole?
Bien, on le trouve à l'Office du Tourisme, oui. Musée de la Faïence, la Maison de la Presse. Oui, voilà. Oui. Et puis dans des restaurants, des boutiques, des hôtels, voilà. Vous pourrez vous le procurer assez facilement à toute heure de la journée.
D'accord. Oui, sur le marché aussi, parce qu'on peut vous retrouver sur le marché le vendredi matin.
De 10h à 12h.
Faites des dédicaces de ce livre. Donc manquez pas ça, une dédicace, c'est bien aussi. Voilà, Chantal, on a reçu aussi Chantal Lemarchand, qui est ambassadrice des éditions Parole dans les Basses-Alpes, enfin les Alpes d'Haute-Provence qui disent maintenant, et donc et qu'on peut retrouver pour voir la tête qu'elle a sur le marché de Pierre-Rue. Non, mais c'est vrai de mettre un visage sur le marché de Pierre-Rue. C'est quel jour le marché de Pierre-Rue?
Le samedi matin.
Samedi matin, tous
mais
les
samedis. Mais je ne serai pas ce samedi, samedi d'après.
Comme samedi. Donc le marché de Pierre-Rue, voilà. Et puis, écoutez, merci à Carole, merci à Chantal.
Merci à Jean.
Voilà. Oui. Merci à tout le monde.
Et merci aussi à Odile, dont on a écouté des chansons. Et puis, on se retrouve peut-être pas le mois prochain, mais à l'automne. Je ne dis pas la rentrée parce que j'aime pas ce nom-là, mais à moins à l'automne. Voilà, passez un bon été. N'oubliez pas de lire pendant l'été, de découvrir tous ces livres dont on vient de parler et tous les autres aussi. Voilà. Et bien, à bientôt. Et pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances.
Au revoir.
All you need to know, there's nothing more. falls when we can't hear no more. And there's nothing to cover for. What is wrong in this always to gain? Right and wrong be one and the same. Cause wrong was made for you to be.